Rebonjour tout le monde. Merci à ceux qui se joignent à nous. Qu'est-ce que vous feriez avec 3 milliards de dollars? Non, c'est pas la nouvelle loterie de l'Auto-Québec, mais c'est bien le montant des surplus que François Legault va avoir à gérer. Vous allez dire, c'est un beau problème. Ça a été aussi des problèmes pour nous parce que je vous rappelle que ce 3 milliards de dollars, d'où il vient? Ben, c'est le résultat d'une cure d'amaigrissement solide qu'on a subie pendant les années quand même du gouvernement Couillard, faut le rappeler. C'était toute la phase où de serrage de ceinture, où on nous disait, ben écoutez, pour améliorer l'accord de crédit du Québec, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on s'en va dans le mur financièrement, il faut serrer la ceinture, ce qu'on a appelé vite et rapidement, finalement, le régime minceur d'austérité. Là, aujourd'hui, on a tellement serré, on se retrouve avec des surplus. Ça, normalement, là, ça s'appelle de la mauvaise gestion. Mais toujours est-il que le gouvernement de la CAQ arrive, ils ont 3 milliards à redonner aux familles qui nous ont dit. C'est tellement... Ça, ils l'ont vraiment rappelé beaucoup pendant toute la campagne, puis je pense que ça a probablement fait en sorte qu'il soit rentré si fort un peu partout au Québec. Tellement que les ministres, il y en a peu qui sont sortis en point de presse, mais celle qui s'est même essayée dans un petit point de presse qui n'a pas été glorieux, c'est la ministre Marie-Chantal Chassé, qui n'était pas la ministre de la Famille, mais bien la ministre de l'Environnement, et qui, même dans des questions qui touchaient l'environnement, a eu ce commentaire.
Notre gouvernement s'est engagé clairement à retourner aux Québécois, aux familles, via la réduction des taxes scolaires, via l'allocation familiale aux Québécois. Notre engagement est très clair en termes de retour.
Ce serait pas au fédéral à verser de l'argent aux Québécois pour les efforts déjà consentis?
On s'est engagé, nous, à retourner de l'argent à nos familles.
En tout cas, c'est la cassette. Je veux juste vous dire, là, on parlait d'environnement. Il y a même des journalistes qui se sont tannés, qui sont mis à y expliquer comment ça marchait, qui ont dit, madame, on parle d'environnement, là, vous n'êtes pas ministre de la Famille. Tu sais, des fois, tu peux te tromper de ministère, là, tu viens d'arriver, on comprend ça. Ça va être long si c'est elle qui reste à ce ministère. Toujours est-il que... C'est vrai que c'est une promesse qui a été faite et c'est probablement ça vers ça qu'on s'en va. Moi, je veux savoir ce que vous en pensez. Pensez-vous que c'est une bonne idée de tout redonner ce 3 milliards aux familles? Est-ce que, effectivement, les retours d'impôts, tout le monde aime ça en général, mais peut-être que des fois, tu pourrais avoir besoin de te garder une petite gêne. On va en discuter avec nos invités. Toby Lamontagne est commerçant à Montréal, boulevard Saint-Laurent, une entreprise... familial, on va dire.
Oui, absolument. Une PME, comme il y en a tout plein au Québec.
Sarah Beaumier est mère de famille, attend son troisième bébé. Salut, Sarah.
Salut.
Moins de 40 ans, qui va nous dire, elle, ce qu'elle en pense de cet argent qu'on pourrait tenter de redonner aux familles. Et Régent Parent, ex-président de la Centrale des syndicats du Québec, chroniqueur au Journal de Montréal. Bonjour, Régent.
Bonjour, Isabelle.
Bon, toi, tu trouves que c'est pas forcément une bonne idée?
Ben, moi, je pense, si effectivement... on nage dans l'argent à ne plus savoir qu'en faire.
Ben, 3 milliards.
Non, mais attention, Isabelle. À quelque part, là, on a vu dans le passé, les retours aux citoyens, on les a payés plus cher par la suite. Toi-même, là, t'introduisais l'émission en parlant de la cure minceur ou d'austérité des libéraux. On a beaucoup de choses de casser au Québec actuellement. Je voyais déjà, là, les recteurs d'université monter au créneau pour dire que les universités sont sous-financées. Ça fait 10 ans qu'on dit que les universités sont financer. On va entendre des cégeps bientôt. Dans le réseau scolaire, on va amputer 600 millions.
Et on vient de faire une heure, c'est la situation des profs.
Ben, la CAQ va aller dans le sens de ce qu'elle promettait d'uniformiser la taxe scolaire, mais c'est 600 millions de revenus de moins. Donc, il va falloir la prendre à quelque part, cet argent-là. On est dans un contexte économique aussi où l'économie a surchauffe. Il y a des économistes qui anticipent une certaine récession. Fait que la prudence, habituellement, c'est quand on a fait des économies, c'est peut-être d'avoir une petite gêne avant de tout dépenser allègrement. Et ceci dit, même le ministre des Finances, M. Girard, dit on ne retournera pas tout. Là. Dans le 3 milliards, on a une marge de manœuvre pour essayer de boucher les trous que les autres ont fait. Puis on va mais il risque finalement de retourner aux citoyens des miettes. Mais pendant ce temps-là, il y a des parents comme Sarah qui... sont pris à payer des professionnels sur le côté parce qu'ils ont des enfants qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. On a des citoyens qui ont de la difficulté à se faire soigner puis qui sont obligés de s'en aller au privé. On a des routes qui sont carotteuses. On a le transport en commun. Là. Ça va sortir. Là. C'est à Longueuil ce matin. La ligne rose de Mme Plante va revenir à surface. Laval veut extensionner. On sait qu'on a des problèmes de mobilité sur le territoire québécois. Ça passe par des investissements en transport commun. Fait que tout ça mis ensemble, il y a une certaine prudence. Et au bout de la course... Là,
mais est-ce que t'en redonnes un petit peu pareil ou
ben
pas
moi,
du tout?
À ce stade-ci, j'aurais tendance à mettre ça là. Ils voulaient mettre l'augmentation des médecins en fiducie, qui mettent donc son surplus en fiducie pour une douzaine de mois, le temps de voir clair, d'avoir réparé ce qui est à réparer et s'assurer que la journée qu'on en remet au monde, ça sera pas pour aller le grappiner ailleurs. Parce que c'est souvent ça qui arrive. Hop, un petit tarif, on va augmenter l'immatriculation, on va augmenter des routes à PA, ça va coûter des frais accessoires à l'université. Fait que finalement...
T'as oublié les villes, les municipalités, là, plus, qui toutes demandent hier, puis on va en parler demain, de l'augmentation des taxes à Montréal, parce que je sais pas si les auditeurs l'ont compris, mais hier, la mairesse Valérie Plante l'a quand même dit, les taxes vont augmenter au niveau de l'inflation, mais c'est quand même une augmentation de taxes pareil.
Et là, on veut ajouter à ça un 50$ de transport en commun dans le 4-50 parce que là, eux autres même disent ben là, on peut plus taxer.
Les automobilistes aussi.
On peut plus taxer directement, on va le faire indirectement. Fait que c'est pour ça, avant là, d'avoir l'air généreux puis d'en remettre au monde, assurez-vous donc que vous êtes capable d'en remettre.
Mais c'est drôle parce que ce que tu suggères, trouvez-vous que c'est une bonne idée, Toby et Sarah, ce que suggère Régent, c'est de dire, c'est un peu l'attitude que l'Auto-Québec conseille à ses nouveaux gagnants. Tu sais, quand t'arrives avec un... Je ne l'ai jamais vécu, mais j'imagine, tu sais, quand t'arrives, j'interviewe des gens à qui, justement, ils gagnaient l'auto, là, tu sais, là. Wow, là, t'as 3 milliards. François Legault, il a 3 milliards. Fait qu'on lui dit... Régent, tu lui dis, excite-toi pas. Mets ton argent, notre argent, dans un pot. Touche-le pas. Puis essaye de voir, d'y aller.
C'est pas bête. On a quand même la Caisse des dépôts offre des bons rendements, il me semble, depuis quelques années. Ouais. On a Michael Sabia qui s'occupe de tout. Ah, mais pourquoi pas placer notre argent auprès de nos institutions qui performent bien, même à l'international?
C'est bon.
Je déteste pas l'idée.
Mais comme Régent disait aussi, je fais du pouce là-dessus. Ouais. Éric Girard l'a bien mentionné, là, que c'était pas...
Ministre des Finances.
Ministre des Finances. Que c'était pas le moment de prendre ce 3 milliards-là et de l'allouer. Je veux juste rappeler que y a les promesses de la coalition sur lesquelles se sont fait élire, il y avait quand même été budgété. Donc, tout ce qui a été mentionné, là, sur la maternelle 4 ans, l'abolition ou en tout cas l'uniformisation de la taxe scolaire, tout ça, c'est déjà budgété. Donc, on n'a pas besoin d'aller chercher dans le 3 milliards pour financer ces promesses-là.
J'ai oublié de mentionner, parce que là, on entend bien la caquiste dans ce que tu viens de dire, Sarah. T'as été candidate de la CAQ dans Hochelaga-Maisonneuve. T'as pas été élue. C'est Alexandre Leduc de Québec solidaire qui a gagné cette circonscription qui était originalement assez péquiste. Mais donc, t'es toujours membre de la CAQ.
Je suis toujours membre de la CAQ, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des faits, là. Donc, ultimement, il y a eu un exercice financier qui a été fait durant la campagne électorale pour financer les promesses. Donc là, on arrive avec de l'argent neuf, si on peut dire, de l'argent qui avait pas été dépensé ou en tout cas pour lequel il n'y a pas de projet. Moi, je pense qu'il y a, la première étape, c'est de se demander est-ce que c'est un 3 milliards ponctuel ou c'est quelque chose de récurrent? Parce qu'on peut pas se dire à chaque année, on aura un 3 milliards supplémentaire. Donc
j'espère que ce ne sera pas récurrent, là, c'était
exactement.
Donc, on n'est plus capable.
Donc, si on a un 3 milliards une fois cette année, qu'est-ce qu'on fait avec qui pourrait être structurant puis qui pourrait être juste aussi pour les autres, pour les années où on n'aura pas ce 3 milliards-là? Donc, je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le regarder. Donc, de réfléchir à des choses qui pourraient être payantes, pas seulement cette année ou, comme Régent disait, de peut-être donner quelque chose à très court terme à des familles. Ouais. Moi, je pense qu'on peut regarder ça. On parlait avec les profs tantôt d'école. D'écoles qui sont dans des mauvais états. J'en ai entendu parler, moi, tout le long de la campagne dans Hochelaga-Maisonneuve, d'écoles dans lesquelles on continue de découvrir de la moisissure. C'est quelque chose qui... C'est scandaleux, là. C'est à la limite de l'acceptable. Donc, moi, je peux pas penser qu'il y a pas ce genre de projet-là où on peut se dire, il faut absolument regarder à quelque chose qu'on une forme de dépense qui va être équitable puis qui va aussi pouvoir bénéficier pendant plusieurs années.
Le débat éternel, Isabelle, va être encore le collectif versus l'individuel, le déchirement entre offrir des baisses d'impôts ponctuelles ou d'investir dans quelque chose qui est plus, fondateur ou durable. Donc, moi, j'ai fait l'exercice pour le fun ce matin pour voir, tu sais, disons que les 3 milliards nous revient complètement dans les poches. J'ai dit, ah, c'est le fun, ça nous fait comme un 433$ à peu près par citoyen, c'est super. Là, j'ai regardé ce que je pouvais faire avec ça, tu sais, 433$. J'ai dit, ah, ben, c'est un week-end à Fort Lauderdale pour un membre de la famille, on est 5, tu sais. Fait que je me dis, bon, même si on me donner le 100% du 3 milliards dans mes poches, là, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Par contre, avec le même budget, on peut construire 750, 800 écoles. Donc, il y a quand même un débat de fond à y avoir là, pour déterminer, est-ce qu'on utilise un 3 milliards qui, d'après moi, est ponctuel, comme Sarah dit, qui n'est pas un montant extraordinaire, comme Régent le souligne, et qu'on essaie de régler quelque chose avec ce montant-là. Il y a des choses qui traînent au Québec au niveau de l'éducation. C'est assez grave ce qui se passe. Ton sujet de ce matin, Isabelle, avec les enseignants, le démontre bien. Il y a vraiment un coup de barre à donner, là. La CAQ en a parlé. Il faut absolument répondre à ces promesses-là et livrer. Donc, prenez l'argent qu'il faut. Il y a des montants. Prenez-le. Réglez ça. Première des choses. Ça va aider les familles. On parle de redonner aux familles, là. Aidez-nous avec nos enfants. OK? C'est pas en nous donnant un chèque de 400$, là, à la fin de l'année que ça va nous aider. C'est donc, régler les écoles, régler la situation des enseignants. Faites-la à la maternelle si vous voulez, ou sinon, régler le cas des CPE au niveau de la qualité. Hein, c'est un ou l'autre, là. Mais trouver une solution, il faut un standard de qualité au niveau de l'éducation des poupons jusqu'à la maternelle.
Il faut de l'accès aussi, là. Je veux pas te faire sur ce que tu dis parce que dans le fond, tous ceux qui trouvent les CPE extraordinaires sont ceux qui y ont accès.
Oui.
Et donc, tous ceux qui se retrouvent à devoir envoyer leurs enfants dans d'autres endroits, la plupart du temps, c'est parce qu'ils se sont frappés à des CPE qui sont à pleine capacité.
Toi, t'as deux enfants, deux filles de 15 mois et 4 ans, là, en plus du petit troisième, là, mais qui s'en vient.
Est-ce que t'as réussi à trouver?
Ouais, ils sont où, tes enfants? C'est drôle. Ma grande de 4 ans était dans une garderie privée jusqu'à récemment. Elle a réussi à avoir une place en CPE. Quand je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant, on m'a bien dit, on n'a pas de place pour ta fille en pouponnière dès le début de ma grossesse. Et à la fin, il y a eu un déménagement, une cancellation. Donc, j'ai pu avoir accès pour ma deuxième dès ce qu'eux appellent la pouponnière. Et là, maintenant, c'est très bureaucratique, mais on m'a dit, si tu veux que ton troisième puisse entrer au CPE en septembre 2019, tu dois accoucher avant le 31 décembre 2018.
Donc, pas de pression,
non,
fille!
Mais au moins, c'est clair.
Donc, j'en ai déjà parlé.
C'est quand la date prévue?
Oui, 4 janvier. Oh. Donc, à suivre, je vous mettrai à jour. Mais
écoute, donc, on va penser à toi le 31 décembre.
Merci, oui. Ouais. Peut-être que vous me verrez bébé de l'année le lendemain matin dans le journal.
Premier bébé de l'année, mais pas toi bébé de l'année.
Non, Dieu.
Donc, le 1er janvier, ça marche pas, son enfant. Ils sont capables de dire, ah ben non, c'était hier. Il aurait fallu que vous accouchiez hier, madame, pas aujourd'hui.
Ça serait mieux à Noël,
c'est un autre formulaire.
T'sais. Cela dit, je veux vraiment quand même féliciter mon CPE pour le travail qu'ils font. Ils sont extraordinaires et c'est pas eux, évidemment, qui font toutes ces règles-là. Et puis, je suis certaine qu'ils vont travailler très fort pour m'aider.
C'est intéressant ce que tu soulignes, Sarah, dans le sens où l'accessibilité. Je trouve le j'espère que l'ex-candidate de la CAQ va être entendue par son parti et son gouvernement, parce que en fait, c'est justement ces sommes-là, comment ça peut être utilisé avec efficience, comment ça peut répondre à des besoins et être structurant, parce que encore là, je veux dire, je dis pas qu'il ne faut pas le dépenser, mais je pense qu'il faut le dépenser intelligemment. Il y a assez de mauvaises dépenses au Québec. Là, c'est peut-être justement...
Et en particulier, ce 3 milliards.
Oui, c'est 4 ans d'austérité,
écoute,
Isabelle.
C'est même,
moi,
à la rigueur, là, on dit 3 milliards parce qu'il y a 1 milliard et quelques qui s'en va dans le fond des générations, mais en théorie, c'est même plus de 4 milliards. Cet argent-là, les amis, je veux juste vous dire, ça nous a vraiment fait mal.
Ouais.
C'est de l'argent, en plus, qui a été mal... Tu sais, c'est de la mauvaise gestion dans la mesure où tu sais, t'es en affaires aussi, puis t'es en marketing, ça rentre. Quand tu gères à trop couper, là, ils ont passé la gratte, ils ont coupé des gros pans de notre système d'éducation, notre système de santé, qui aujourd'hui, là, sont vraiment en... Il y a des gros problèmes. C'est aussi à cause de ça. Fait que cet argent-là, qui appartenait aux gens... qu'on est allé leur ponctionner de façon anormale et injustifiable. Faut pas penser qu'aujourd'hui, c'est un beau problème qu'on a à gérer. Non. Fait que gaspillez-le pas. fait. En même temps, je vais aller demander aux gens, est-ce que vous le voulez, est-ce que vous voulez un petit peu un retour sur ce, justement, ce que je viens de décrire, cet argent-là, est-ce que vous seriez content qu'il y ait un petit peu de retour d'impôt quand même, parce que peut-être que Toby, de ton 400$, ça te fait pas un pli. Mais il y a des gens qui sont à 20$, Toby. Fait que après, il y a le principe.
Il faut les écouter.
Puis après, il y a une question de principe. Ouais. Tu peux aussi dire, hey, t'es venu me le chercher, redonne-moi mon argent. Tu peux aussi dire ça. 514-790-9850. Sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Alors, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez ce fameux surplus de 3 milliards de dollars? Un beau problème pour François Legault, qui a promis de redonner pas mal d'argent aux familles du Québec. Philippe, votre opinion?
Hey, je suis un grand payeur de taxes. Je travaille depuis des années comme tout le monde.
Oui.
Puis je fais partie du 5 ou 10 % des gens qui payent le 70 % des impôts.
Ouais.
Mais moi, je vois qu'on devrait payer notre dette. Qu'on montre l'exemple aux gens du Québec qui n'ont pas d'argent, qui payent beaucoup d'intérêts sur leur carte de crédit puis qui font des prêts à hauts intérêts. Et qu'on montre l'exemple puis qu'on paye nos dettes, le Québec. Puis après ça, notre prochaine génération, un jour, peut-être eux autres puis nos petits-enfants vont payer moins d'impôts.
Bien, c'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure, Philippe. Le fameux fonds des générations a été créé pour ça, justement. Là. Ça sert à réduire le poids de la dette. Donc, parce que l'excédent véritable, c'est 4,1 milliards. Et sur ce 4,1 milliards, on va prendre le quart du montant. On prend 1 milliard, on va le mettre au paiement de la dette. Fait que c'est quand même un bel effort. Imaginez, là, si vous prenez le quart de ce que vous gagnez puis vous le mettez au paiement de vos dettes. Si tout le monde faisait ça, on serait pas obligé de faire autant d'émissions pour rappeler aux gens de gérer leur budget. Mais il reste 3 milliards. Ce 3 milliards-là, qu'est-ce qu'on fait avec?
Écoute, moi, à la fin, je crois toujours que c'est nos enfants. Qu'on focus vers les enfants, qu'on focus vers la santé. Puis nous, les parents, les grands-parents, avec les gros fonds de pension, on va pouvoir donner à nos petits-enfants. C'est notre futur. Qu'on pense à notre futur.
Merci beaucoup, Philippe. Charles, votre opinion?
Oui, bonjour, Mme Maréchal. Mon opinion est un peu à l'opposé de la vôtre, malheureusement pour vous, mais en accord avec votre invité. Moi, je suis pas d'accord par rapport au fait que c'est une mauvaise gestion du gouvernement précédent, puis je suis pas libéral du tout, là, peu importe, mais j'aime mieux en voir un surplus année après année, ouais, qu'un déficit. Parce qu'un déficit signifie aussi hausse d'impôts éventuelle qu'on n'aura pas. Alors, évidemment...
Je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est la façon dont on vient de chercher... Tu sais, la façon dont on fait ton surplus, là.
Oui, c'est sûr que pas tous les faits n'ont pas été faits selon les règles de l'art, là. Il y a des économies de bout de chandelle qui ont ciblé des gens très précis et qui ne valaient pas cher. Mais n'empêche qu'à la base, on a chialé longtemps parce que les gouvernements d'un gouvernement à l'autre ont transmetté un déficit. Ouais. On chiale parce qu'il y a un surplus. J'aime mieux chialer pour cette raison-là que les précédents.
Ouais,
maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça?
Mm-hmm.
Qu'est-ce que je fais avec ça? Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais il y a une chose en réalité, mais il n'y a pas deux avenues. Il y en a une qui enrichit un peuple, qui fait en sorte que l'économie du futur, c'est d'investir dans la jeunesse, dans l'éducation.
Ouais.
Les familles, c'est bien beau, là, mais c'est plus politique, ça, M. Legault. J'espère qu'il n'ira pas directement juste sur la famille. Mais la meilleure façon d'enrichir notre peuple, puis d'éduquer notre peuple, puis diminuer nos coûts de santé éventuels, c'est d'investir dans l'éducation et des cours en économie, puis des cours sur aussi la santé. Mais par l'économie, par la santé, évidemment, en investissant dans l'éducation, on va avoir un impact sur l'ensemble de tous les aspects de l'économie du futur. Moi, je pense que c'est là qu'il faut qu'ils investissent et j'espère fortement que c'est ça qu'ils vont faire. Puis je vais d'ailleurs appeler aux envois stratégiques pour influencer les gens s'il n'est pas trop tard.
Ah, ben c'est bon, ça. Vous allez appeler.
Faire des choses. Ben oui, absolument. Il faut appeler l'exécutif. Il faut appeler nos politiciens. Ils sont influençables, nos politiciens.
Avez-vous une carte de parti, vous, d'un parti quelconque?
Non, j'en ai plus.
Non?
J'en ai plus. Puis
vous aviez quoi comme carte? Vous dites j'en ai plus.
J'avais la carte du Parti québécois.
OK.
Mais présentement, je me remets toujours en question à chaque année en politique pour voir que je fais bien de voter pour un parti. Je dis à chaque année parce qu'à chaque année, il faut être prêt. Puis aussi pour défendre puis je me challenge aussi pour, parce que je mets pas les libéraux pour certaines choses, là, mais il n'y a pas que du mauvais chez les libéraux. Puis autant Charest, j'avais des espérances envers lui en 2003, il m'a énormément déçu, autant j'avais pas d'attente envers Couillard pour toutes sortes de raisons, pour ses antécédents et son passé, qui m'a agréablement surpris. Et pour ça, que je pense qu'il faut rester ouvert.
Mmh.
Et j'ai pas voté pour la CAQ, mais je suis heureux, je suis content qu'il soit pas là. Il y a des sources intéressantes
On
peut être optimiste. On peut être optimiste de ce qui s'en vient parce que c'est une source de renouveau, puis il n'y a pas les instances politiques que le Parti québécois pour prendre des décisions.
Ça, c'est sûr. Puisque vous êtes un ex-membre du PQ, Charles, qu'il faut changer le nom du PQ, comme Jean-Martin Vincent le suggère alors, aujourd'hui.
Je trouve ça ridicule encore. Le PQ, ça va pas dans la bonne direction. Le monde n'est pas naïf. Il faut arrêter de charrier, là, Mme Maréchal. Regarde, quand même qu'il changerait le nom. Là, moi, le monde va savoir que change tout ou change rien. Mais un nom, ça dit quoi, un nom? Que la CAQ, ça serait appelé la SAC ou whatever. C'est un nom. C'est les gens qui composent un parti. C'est les politiques, puis c'est la loyauté, puis le service qu'ils donnent au peuple par des actions concrètes. Moi, le nom, Mme Maréchal, je trouve que c'est prendre les Québécois pour des ignorants. Puis, en politique, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ignorants au Québec.
Ils ont tellement changé de chef, Charles, à un moment donné, tu peux plus en changer. Tu dis, qu'est-ce qu'il reste à changer? On change le nom.
Ça enlève beaucoup de crédibilité, Mme Maréchal, ouais. Effectivement, ce qui est arrivé au Parti québécois. Puis j'étais même très impliqué au niveau du Parti québécois jadis, moins maintenant, parce qu'ils m'ont déçu beaucoup. Ouais. C'est trop, il y a trop de politique. Soyez donc plus au service du peuple.
Près du monde. Ben, c'est ça l'exemple de la CAQ. Merci beaucoup, Charles. C'est passionnant. J'adore parler à des gens qui sont passionnés de politique comme ça. On va aller à la pause. On revient avec vos commentaires. Dites-moi ce que vous feriez avec ce surplus de 3 milliards de dollars que le gouvernement a maintenant dans les coffres suite à l'austérité libérale. Est-ce qu'il faut vous redonner une partie de cet argent-là en impôts? En avez-vous besoin? C'est sûr que ce ne sera pas des gros montants. Là, mon invité Toby a évalué que c'est autour de 400-430 peut-être.
Si on récupère le 100% du 3 milliards, voilà. C'est impossible.
Exactement, mais mettons 200 s'ils nous donnent la moitié de ça. Ouais, on a déjà eu quoi? C'était quoi le montant qu'ils nous avaient redonné?
92
C'est ça, 92 Ben, tu pouvais faire ton épicerie. Puis, il te restait du petit change, tu vois? Non, mais quand même, tiens, beau cadeau. On se reparle tout de suite après la pause. 514-790-9850. Bonjour, Marc. On vous donne 3 milliards à gérer au gouvernement du Québec. Là, mettons que vous êtes François Legault, son ministre des Finances, Éric Girard. Vous faites quoi avec?
Oui, ben moi, c'est assez simple. Je le prendrais puis je le distribuerais au PME du Québec pour pouvoir augmenter enfin le salaire minimum à 15 de l'heure.
Ah, OK. Vous êtes en affaires ou vous êtes un travailleur de PME?
Ah, oh, je suis pas du tout un entrepreneur, mais je cherche un emploi présentement, puis quand je demande 15 $ on me répond toujours j'ai pas le budget pour ça. Ça fait que je pense que si ces entreprises-là auraient l'argent pour le faire, là, je l'aurais mon 15 $ puis là c'est. Comment ça serait vraiment le temps que ça soit augmenté? Parce que présentement, 12 $ là, c'est quasiment comme vivre sur le bien-être social, là. C'est à ce point-là.
Ouais. Puis il y en a d'autres. On parlait de l'Ontario tout à l'heure, là. Ils sont rendus déjà à 14, eux autres. C'est de toute façon, on n'aura pas le choix.
Ouais,
ça n'est pas
en d'ailleurs, vrai. Au dernier employeur avec qui j'ai eu une entrevue, j'ai dit, je suis prêt à descendre à 14. C'est le plus bas, je suis prêt à descendre.
Ouais.
Parce que l'Ontario est capable de le faire. Les Québécois sont capables de faire l'effort. Mais on me répond toujours, j'ai pas le budget pour ça.
Wow, c'est quelque chose, hein, quand même. Toby, là-dessus?
Moi, je suis absolument en accord.
C'est un bon point, là, qui nomme.
Absolument. Puis je vous dirais même que si on avait les leviers, nous, en tant qu'entreprise, pour être capable d'offrir des meilleurs salaires.
Mais tu as besoin de quoi, mettons, comme entrepreneur?
Ben, c'est que les charges pour une PME sont tellement énormes au départ que. Je vous le dis, il y a personne qui fait du profit presque là, dans
mais
les PME
quoi,
au Québec.
Qu'est-ce que tu appelles les charges?
Autant au niveau de l'impôt, toutes les charges, même au niveau. Ben c'est parce que c'est au niveau des municipalités aussi. Moi, je suis à Montréal. Là, on est à Montréal, sur le boulevard Saint-Laurent. Là, je peux vous dire là, qu'en taxes, on parlait des hausses de taxes à Montréal dans les dernières années.
On
taxes,
en parle
c'est
demain matin
tout.
À 10h.
Tu sais, donner un ordre d'idée, là, les gens, un petit local là, sur le boulevard Saint-Laurent, là, c'est 12 à 15 000 $ par mois. Là, ça va vite. Puis ça, tu n'as pas le choix de le payer, sinon tu t'opères pas. Après ça, les charges salariales, c'est sûr que toutes les charges supplémentaires qui s'ajoutent au salaire, c'est quand même quelque chose de notable. Mais surtout, nous, dans les PME, je ne sais pas pourquoi, il n'y a aucune aide à l'embauche de nouveau personnel. On ne peut pas. Nous, on n'est pas comme Ubisoft, où sous la menace de quitter le Québec, on nous fournit la moitié des salaires en subvention et tout ça. On n'a pas ça, nous. Là. Donc, nous, on doit payer 100% des salaires qu'on assume. Ça, c'est vraiment difficile parce que...
L'as-tu déjà essayé? Hey, moi, je vous avertis, là, je ferme mon épicerie de quartier ici.
Ça a duré 10 minutes, puis ils m'ont dit « Oui, vas-y ». Non, c'est ça. Donc, il y a vraiment un désavantage très, très marqué pour les petites entreprises. Et malheureusement, c'est 80% de l'emploi au Québec. Alors, quand on parle, j'ai hâte de voir, là, quand on parle de soutenir l'entreprise, j'espère que ce n'est pas encore soutenir la grande entreprise par des baisses d'impôts. Ouais. Ça ne sert à rien, ça, au niveau de créer de l'embauche à 15 $ l'heure là, sur le terrain. Là, ça aide pas. Parce que ces entreprises-là, là, les PME dont on fait partie, honnêtement, là, quand il y a un peu d'argent à la fin de l'année, là, rapidement, on s'embauche des, des nouvelles personnes pour nous aider parce qu'on travaille tellement. On réinvestit dans l'entreprise. C'est pas vrai qu'il y a des gros profits à la fin de l'année pour la moyenne des PME. Alors, de baisser l'impôt, ça nous aide absolument pas.
Régent Parent.
Mais ça, c'est un élément intéressant. Tu sais, quand on parle de mesures qui sont profitables puis qui rejailliraient sur la famille, parce que si tu augmentes, tu sais, la rémunération d'un salarié qui a une famille, ben, ses enfants vont s'en ressentir. Moi, je rejoins Sarah quand tu parles d'éléments structurants. Quand tu parles d'une mesure comme d'aide à l'embauche, ou de, ça, c'est des programmes qui sont pas nécessairement très dispendieux, mais qui pourraient être mis de l'avant, qui pourraient être structurants, qui permettent une croissance dans l'entreprise avec un support... Je veux dire qu'il y a une durée déterminée.
Même la première année, aidez-nous à former les jeunes, à former la relève, aidez-nous à soutenir. Par exemple, on a commencé à embaucher beaucoup plus des migrants, des personnes qui sont retraitées, des choses comme ça. On essaie de diversifier notre équipe, mais c'est difficile parce que chaque employé maintenant a des besoins particuliers. Puis nous, en tant que PME, là, c'est difficile là, pour nous de s'adapter à ça. Là.
Ben ouais, c'est
donc,
sûr.
Donc en bout de ligne, ben, on manque de ressources, on manque de ressources pour se développer. Donc, même, je vous dirais, la croissance des entreprises actuellement est fortement limitée par le manque de ressources qu'on a. En temps, en tant qu'entrepreneur, on manque de temps, là, je veux dire, faut le dire. Souvent, on a des familles, on a différentes obligations. Donc, d'avoir du soutien aussi au démarrage d'entreprise puis à la croissance d'entreprise. Je finis avec un exemple très, très, très concret. Ma conjointe, avec qui je gère l'entreprise familiale, elle a réussi à rentrer dans le programme Femmes Essor.
Oui.
Femmes Essor, qui est un programme qui existe depuis quelques années, qui se développe bien. Mais là, j'entendais qu'ils choisissent 40 personnes, 40 femmes entrepreneurs par année pour les soutenir puis leur offrir du mentorat. Mais il y a 80, 100, 120 demandes par année. Mais la question se pose, pourquoi laisser 40, 50, 60 femmes, jeunes femmes entrepreneurs montréalaises se débrouiller seules?
Mm-hmm.
C'est d'assurer presque l'échec de ces entrepreneurs-là qui, à 80 % ne survivent pas les trois premières années.
Ouais.
Alors que quand il y a du mentorat, là, ben, ça monte à 80 % de succès. C'est pas des gros investissements, c'est pas des gros efforts, mais c'est de porter attention à l'entrepreneur et pas seulement à l'entreprise. T'sais, c'est bien beau des nouveaux démarrages, là, mais derrière chaque démarrage, il y a un entrepreneur, puis des fois, l'entrepreneur, c'est sa troisième entreprise.
C'est le facteur humain qu'on oublie.
Ça serait peut-être le fun de le soutenir, lui, directement.
On a Patrick avec nous. Bonjour, Patrick. Vous faites quoi avec 3 milliards de dollars? Est-ce que vous redonnez une partie de cet argent-là en retour d'impôt aux Québécois?
Eh là là, non, 3 milliards de dollars, je te mettrais ça à l'éducation. Il y a tellement de choses qu'on pourrait faire avec 3 milliards à l'éducation. Premièrement, juste plus d'écoles pour commencer. Deuxième chose, peut-être les frais de scolarité, mais je pense que le plus essentiel, c'est le salaire des enseignants. Moi, j'ai 29 ans, puis j'ai fait un choix de ne pas devenir enseignant récemment. Ça me fait mal au cœur de le dire parce que je sais qu'il y a une pénurie d'enseignants.
Ouais.
Mais s'il y a une pénurie d'enseignants, c'est peut-être parce qu'ils sont pas assez payés aussi, ces enseignants-là. Mm. C'est peut-être pas assez valorisé au Québec, la job d'enseignant. Et pourtant, c'est pas juste pour plus payer les enseignants que je dis ça. C'est parce que c'est la clé de l'avenir. Là. Regardez où l'eau est rendue la planète présentement avec les derniers rapports qui sont sortis. 60% des vertébrés en 40 ans qui vont disparaître. On approche du point de non-retour.
Ouais.
Tout ça passe par l'éducation. Si on éduque les prochaines générations à mieux traiter la planète, ben c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir un futur au final. Fait que, et moi, ça me fait mal au cœur de le dire encore. J'ai choisi de ne pas devenir enseignant.
Fait, vous allez faire quoi?
Je suis dans la construction, puis je fais autre chose de ma vie, puis je vis bien quand même, mais je pourrais être je pourrais être un bon pédagogue, mais je veux dire, quand je regarde l'argent que j'ai besoin pour pouvoir subvenir à mes besoins, prendre soin des gens autour de moi, la job d'enseignant, puis ce que ça me nécessitait pour pouvoir arriver à ça,
ça marche pas.
Le retour était pas assez intéressant. L'effort pour pouvoir se rendre là, ça valait pas la peine. J'ai décidé de faire autre chose de ma vie finalement. C'est ça. Fait que je pense que les enseignants gagneraient beaucoup, beaucoup, beaucoup avec ces 3 milliards. Puis juste aussi plus.
Vous réécouterez notre première heure. Vous allez vous retrouver beaucoup dans les témoignages. Merci, Patrick. Sarah Beaumier veut dire quelque chose à Patrick.
Oui,
d'ailleurs.
Vraiment, Patrick. Je sais pas si vous avez eu la chance un petit peu de vous familiariser avec ce que le ministre Roberge a présenté. Mais le nouveau ministre de l'Éducation, c'est lui-même un enseignant. Donc quelqu'un qui a travaillé là-dedans et qui est au courant de la première ligne et justement de ces enjeux-là. Un, de valorisation et deux, de salaire. Donc c'est quelque chose sur lequel je pense le nouveau gouvernement va travailler. Donc, je vous donne espoir.
Jacques est avec nous. Bonjour, Jacques.
Bonjour.
3 milliards. Beaucoup d'argent, 3 milliards.
Oui, beaucoup d'argent. Moi, ce serait surtout pour le transport. Désengorger Montréal, on sait qu'on a un gros problème sur la circulation. C'est rendu à l'enfer. Moi, je suis camionneur.
Mm-hmm.
Et puis, je prends ces coins-là tous les jours. Il n'y a pas d'heure maintenant, même pas les week-ends, pour les embouteillages monde.
Et ça, c'est intéressant, ce que Jacques m'attendait, parce que là, vous nous partez sur la congestion. Puis ça, là, c'est un de mes sujets préférés. C'est intéressant. La CAQ, là, on l'a souvent dit, la CAQ, c'est parti. C'est devenu gros, cette affaire-là, beaucoup grâce à Québec. Hein? Oui. Montréal, c'est moins caquiste que le reste du Québec, on le sait. On a vu dernièrement François Legault en lunch avec Valérie Plante s'ostiner joyeusement sur la ligne rose. Je suis pas sûre que le gouvernement de la CAQ soit très ouvert à mettre beaucoup d'argent dans la congestion montréalaise.
Ben disons que si stratégiquement il prendrait le temps d'ouvrir sa map ou puis se promener un petit peu dans la circulation, il va voir que le problème touche beaucoup de personnes, là, je pense là. Moi, je pense qu'on prendrait, exemple, la 640. Selon moi, la 640, on plug ça sur l'autoroute 40 à partir de Hudson. Ah. Pourquoi? Ben, la raison est bien simple. C'est parce que moi, là, quand j'ai affaire à traverser Montréal, je vais aller à Québec, je peux prendre l'autoroute 30. On sait que l'autoroute 30, à 16 heures, ça fonctionne plus ou moins, mais je prends la 30, je ne passe pas par Montréal. Si je veux aller à Laval faire une livraison, quoi que ce soit, je suis obligé de prendre l'autoroute 30, la 440.
Mais là, si vous me décrivez la couronne nord, j'ai peut-être plus d'espoir parce qu'il y a eu des. C'est un peu caquiste. Dans ce coin-là, quand même, il faut quand même le reconnaître. Là. C'est vrai.
Couronne sud aussi, pas mal.
Ouais, ouais. Ah non, c'est juste l'île de Montréal, écoute. Mais c'est un bon point. Donc, vous décongestionnez, désengorgez, faut mettre de l'argent là-dedans, vous dites, Jacques, je pense que ça parle à beaucoup de monde. Merci.
Ça prendrait un pont à Haut-Col qui remplacerait le traversier pour plugger la 640. C'est bien important parce que on pourrait complètement passer à l'extérieur de Montréal. Tous ceux qui ont fait des livraisons à Laval ou quoi que ce soit, ils n'ont pas d'affaires à passer dans Montréal.
C'est vrai.
Fait que la circulation, là, c'est sûr que ça a un impact, mais on dirait qu'on ne prend pas le temps de le penser. On a le problème d'en face. On le voit, mais on dirait qu'on l'ignore. C'est pas ça. Oui, je pense que c'est ça. Prenez le temps de regarder, vous allez voir que je dis pas que c'est la solution, mais l'impact, c'est sûr qu'il va en avoir une.
C'est une bonne idée. Tout à fait. Hey, merci beaucoup, Jacques. Bonne route. On s'arrête ici. On revient tout de suite après la pause avec vos commentaires encore et la conclusion avec notre panel d'invités. Restez là, tout le monde. On se demande qu'est-ce qu'on ferait bien avec 3 milliards de dollars de surplus. Ginette, votre opinion là-dessus?
Mettre plus de personnel dans le système de santé.
OK. Vous travaillez là-dedans, vous?
J'ai travaillé 27 ans à l'hôpital Saint-Anne, à Saint-Anne-de-Bellevue. Puis qu'est-ce que j'ai subi durant ma carrière, c'est rien que des coupeurs. J'ai travaillé dans l'entretien ménager, qui est un service qui est extrêmement important. Clairement. Sinon plus.
Ouais, ouais.
Oui. Puis, dans ma carrière, on était au-dessus de 100, on parle juste d'entretien ménager, on parlait de 120 employés.
Mm-hmm.
Puis, quand j'ai quitté au transfert en 2016, on était à peine 52.
Ah ouais. Pour faire le même travail. Ouais.
Pour le même travail. Puis, avec ça, les routes ont vraiment grandi, puis à point tel qu'on ne peut plus faire un job comme un travail comme on devrait faire.
Mm-hmm.
Puis, en plus, aujourd'hui, ben au stade d'aujourd'hui, selon mes anciens collègues de travail, je prenais des informations auprès d'eux, ils sont rendus à peine 35.
Ah, oh, mon Dieu, ça empire, ça empire. Fait que vous, Ginette, pas de remboursement d'impôts, vous voulez pas ça, vous voulez vraiment qu'on remette l'argent qu'on a pris dans le secteur, dans le système de santé.
En plein ça, mettre plus de personnel.
Parfait. Merci beaucoup, Ginette, c'est très clair. Martin, votre opinion?
Oui, bonjour. Moi, je suis un peu à contre-courant. Je vous dirais, on le place.
Mm-hmm.
5% par année, c'est assez conservateur. Ça fait 150 millions.
Ouais.
À chaque année, vous avez 150 millions, vous le dédiez le premier à la santé, le deuxième au transport, le troisième dans les écoles, la quatrième dans quelque chose. Legault se représente en élection. Il dit « Hey, mon 3 milliards, je l'ai encore. J'ai investi 600 millions. Fini. » On continue à faire de l'argent.
C'est bon. Vous en pensez quoi, mes invités? Êtes-vous d'accord? Réjean?
Moi, c'est beau de mettre de l'argent. Là. On vient de dire qu'on a souffert de l'austérité. Fait que le surplus, il est dégagé de là. Fait que moi, une des premières préoccupations, c'est de réparer des gars. À court terme, c'est pas le temps de dilapider la somme. C'est beaucoup plus d'accès sur des mesures structurantes, mais j'aurais en sous-thème une quête d'une plus grande efficience des institutions publiques. Ça, dans le fond, moi, je pense que les citoyens, on l'a vu ce matin, c'est pas un problème de payer des impôts. Le problème, c'est quand on a le sentiment que l'argent qu'on envoie à Québec ou qu'on envoie à Ottawa, il est mal dépensé.
On
veut pas de cadeau de Noël. On veut des services de qualité. On veut de l'efficience. On veut que l'argent soit bien dépensé. Et à ce moment-là, Je veux dire, les gens courront pas à dire, ben là, baissez mes impôts, ben retournez-moi le 3 milliards. Mais il y a des gens qui pensent que le 3 milliards devrait revenir parce qu'ils n'ont pas confiance dans l'institution gouvernementale. Puis ils se disent, ça va être mal dépensé. Je suis aussi bien de le dépenser moi-même. Mais quand on le dépense individuellement, on est moins efficient collectivement. Alors que l'exemple que donnait Toby tantôt quand il disait, avoir, parce que c'est pas 433, c'est plus autour de 100$ qui risque de retourner aux gens. Avec 100$, on fait pas grand-chose. Non. Mais ensemble, à 300$, des fois, on a une meilleure fin de semaine. Mais un collectif québécois...
Avec, je vais mettre mon sang dans le ventre. Bon, ben,
à 400, là, on avance. Puis à 1 milliard, on en fait infiniment plus.
Mais je suggérais qu'on
fasse
un don. Puis j'ai une liste de causes possibles. On a Hubert qui écrit toutefois, moi, on redonnait aux contribuables, aux familles, sincèrement, il n'y a jamais rien pour les personnes sans enfants. Visiblement, Hubert, lui, est plutôt seul. Il dit, laissez de côté les gens comme moi, franchement, si c'est ça que le gouvernement veut faire, il peut passer son tour. Il n'y a jamais rien pour les gens sans enfants. Toby, ton opinion, entre autres?
Je voulais juste amener une nuance. On parlait tantôt de placer l'argent, ce que je trouve vraiment intéressant. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai tout le temps tendance à plus voir l'investissement.
Ouais.
Parce que ça aussi, c'est intéressant. Quand on investit intelligemment, il peut avoir un très beau rendement. J'inclus là-dedans, tu sais, bon, on a tous une propriété, on a fait de l'immobilier. Tu sais, investir dans une école, là, c'est pas une dépense. Hein. Il y a un actif en bout de ça. Là. Il y a un terrain avec un bâtiment qui prend de la valeur avec les années. C'est de l'investissement, c'est de l'actif québécois après qui nous reste. On a vu visiblement la Caisse des dépôts est d'accord avec ça. Il semblerait même que des infrastructures publiques comme des trains, c'est un actif à valeur ajoutée qui peut prendre de la valeur avec le temps. Alors, tu sais, il y a des actifs, je pense, au Québec, dans lesquels on peut investir ce 3 milliards-là qui va nous rapporter autant, sinon plus, qu'un placement.
Mm-hmm.
Donc, ça aussi, il faut le prendre en considération. Ouais. Alors, quand le gouvernement va nous proposer des projets structurants, il faut aussi regarder la valeur de l'actif et aussi le gain que ça peut amener avec les années.
On a Sophie qui veut rajouter son grain de sel là-dessus. Bonjour, Sophie.
Oui, bonjour. Ben, moi, je suis bien d'accord avec vos invités. Quand j'entends parler d'argent bien dépensé et de rendement, je viendrai en aide, moi, aux gens qui se doivent d'arrêter de travailler suite à un trauma vécu dans un lieu de travail ou encore qu'ils doivent d'arrêter parce qu'ils ont un cancer puis après tant de semaines, le chômage ne donne plus rien à ces gens-là. Des gens qui ont des compétences, des gens qui ont des habiletés et qui malheureusement se retrouvent isolés puis coincés à vivre dans une pseudo-convalescence. Moi, je viendrai en aide aux gens, justement, pour qu'ils puissent reprendre progressivement contact avec ce qu'ils aiment faire, avec les gens qu'ils peuvent aider. Comme là, moi, j'ai eu une problématique là, avec la commission scolaire. Il y a des élèves qui ont fait un site Facebook et sur lequel ils ont menacé ma vie. Et c'est moi qui ai été congédiée plutôt que ce soit les élèves qui soient réprimandés. Et par après, ben, quand il est venu le temps que je retourne au travail, la commission scolaire a refusé mon retour parce que c'était un retour progressif qui était prescrit. Et de mon côté, j'ai voulu partir une entreprise et j'ai pas pu avoir le soutien d'aide aux travailleurs autonomes parce qu'on considère que j'ai encore un lien d'emploi avec la commission scolaire. Ça fait 2 ans là, qu'on est en cours avec ça.
Ah, mon Dieu, vous êtes en cours en plus?
J'ai 22 ans de scolarité. Je pense que je peux être utile à quelqu'un quelque part, là.
C'est sûr.
Donc,
mais il y a trop de bâtons dans les roues de trop de monde. C'est juste... Merci, Sophie, de votre témoignage. T'es une jeune maman, mais aussi travailleuse. T'es spécialiste en marketing. Sarah Beaumier, une jeune femme, Sophie, qui dit, moi, à 22 ans, mais bon, vous voyez jeune. On est jeune longtemps au Québec. Puis tu peux surtout apporter beaucoup à la société.
Complètement. Puis je vais faire du pouce sur ce que Réjean disait plus tôt à propos de l'efficience. Je pense que là, c'est là où on peut aider des gens qui sont vulnérables de plusieurs façons. Donc, une des choses qui est vraiment pas quelque chose dont on parle au Québec, mais qui pourrait aider des gens qui sont isolés, c'est tout le système de vidéoconférence ou en tout cas de mettre en lien des gens sans que les gens aient besoin de se déplacer. Donc, on parlait d'être en lien avec un médecin, de faire des consultations à distance et de pouvoir les aider. Il y a des façons aujourd'hui de communiquer qui n'existaient pas avant, mais qui ne sont pas présentement soit applicables ou valorisées par les gouvernements. Donc, peut-être que Sophie aurait bénéficié d'avoir accès...
Non, mais parce que si c'est des règles...
Exactement. Il y a des règles, mais je pense que peut-être durant le moment de la convalescence, ou en tout cas le moment où elle avait besoin de différents services, il y a peut-être des services où les prestataires pourraient être rejoints de façon beaucoup plus efficace. Puis présentement, c'est même pas une conversation qu'on a. Et puis je pense que peut-être avec le 3 milliards, d'une façon structurante, on pourrait regarder ce qu'on peut faire.
Quand vous dites structurant, là, parce que vous l'avez dit à peu près 50 fois. Ça me fait toujours rire, mais ça veut dire qui sert à quelque chose.
Il y a une durabilité aussi, exact. Parce que les mesures temporaires, ça finit par devenir inéquitable. C'est dans le sens où ça a donné, j'étais dans la bonne période, j'ai pu en profiter, mais là, je suis donc, moi, là-dessus, j'ai rejoigné assez rapidement Sarah quand elle a parlé de mesures structurantes. Moi, je pense qu'avec le 3 milliards, ils ont comme certaines restrictions parce qu'ils savent pas jusqu'où ça peut être récurrent. Il faut dire qu'il y a eu un bon coup de l'économie là-dedans aussi. Là, c'est pas juste, l'austérité, compression des dépenses, mais en même temps, une économie qui surchauffe, ça a tout produit ça. Est-ce que ça sera récurrent? Est-ce que c'est ponctuel? Si c'est ponctuel, c'est dangereux de le dépenser de façon inconsidérée. Et quand on dépense, ben, de s'assurer qu'on va être capable de maintenir le programme après. Sinon, ben, tu sais, tu viens recouper, tu donnes une autre impression d'austérité, puis t'écœures le monde.
Voilà. Puis on n'aime pas ça se faire écœurer.
Pas du tout.
Merci beaucoup à tous les trois. Vraiment intéressant parce qu'on pourrait conclure à la rigueur la lumière de notre petit sondage auprès de notre public. C'est pas scientifique, mais ça nous enligne quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on veut pas de remboursement d'impôts juste pour avoir l'air de nous donner un cadeau avant Noël. On veut aussi que le gouvernement prenne cet argent-là et le dépense à bon escient et c'est pas les bonnes idées qui manquent. Merci beaucoup, Toby Lamontagne, Sarah Beaumier, Régent Parent. Toujours un plaisir. On se retrouve demain, tout le monde. Bye.